Vous êtes sur RTL. On défait le monde dans RTL Soir.
Christophe Paco, Cyprien Simi.
18h40, 19h, la bande Cyprien est là. On va donc défaire le monde avec vous, Cyprien, et toute votre équipe, avec Laurent Tessier et Anaïs Bouissou, qui nous rejoint dans l'équipe ce soir pour ce prêt gratuit de 24 heures. Allez, l'info avec notre regard, l'info avec plein de curiosité, c'est avec vous, le sommaire, Cyprien.
Ce soir, on défait le Made in France. Depuis le temps qu'on en parle, et alors que le salon du fabricant en France s'ouvre aujourd'hui, achetons-nous vraiment français ? Sommes-nous devenus des consommateurs citoyens ? Pas si sûr. Au menu également, quand l'armée française changeait de pantalon, des baskets pour l'Afrique, et dans la famille Musk, je demande le frère. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti.
On défait le monde dans RTL Soir.
Et pour commencer, le son du jour.
C'est Made in France.
Le Made in France à l'honneur ce soir. Alors là, c'est France Gall hein, qui chante le Made in France.
Joli.
Et oui, le salon du Made in France s'est ouvert aujourd'hui à Paris. Et avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu savoir si ce credo politique, économique et même social qu'on nous rabâche depuis plus d'une dizaine d'années avait un réel impact.
Alors le Made in France, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Est-ce que les consommateurs suivent ?
Pour répondre à toutes ces questions, on a contacté Yves Puget. Ah. C'est le directeur de la rédaction du magazine LSA. Alors LSA, c'est la référence hein, en ce qui concerne les sujets de consommation, de commerce et de grande distribution. Et d'abord, le concept de Made in France, eh ben, il est beaucoup plus complexe que ce que vous croyez.
Tout le monde a envie de résumer le Made in France à la matière première française ou à des PME. Mais le Made in France, c'est beaucoup plus complexe. Si vous achetez une voiture d'une marque française, elle peut être fabriquée à l'étranger. Donc si vous achetez des marques étrangères en France, elles peuvent très bien être fabriquées. Elles sont souvent fabriquées en France. Il y a des producteurs de pommes de terre de la Somme qui livrent une usine d'une grande marque, on va dire américaine, pour faire des chips. Et l'usine est en Belgique, mais la pomme de terre, elle vient de la Somme, la pomme de terre, elle est française. Je me souviens d'un ancien ministre qui avait eu cette idée absolument géniale de vouloir demander aux distributeurs d'imposer des rayons Made in France à l'intérieur des magasins. Je lui avais répliqué qu'il faudra des produits Coca-Cola, Häagen-Dazs, etc. dans ces rayons-là parce que ces produits sont faits en France.
Ok, ok, mais alors, messieurs, dames, comment distingue-t-on ce qui est Made in France de ce qui ne l'est pas ?
L'étiquette, Christophe, l'étiquette. En fait, la règle, c'est qu'un produit prend l'origine du pays où il a subi sa dernière transformation dite substantielle. Alors évidemment, tout est dans le substantiel. Hein. Prenez un t-shirt, par exemple. Si vous mettez juste le logo de la marque en France à la fin du processus, ben là, ça suffit pas. En revanche, si vous fabriquez le t-shirt avec les fibres, les fils, là, ça marche, peu importe d'où vient le coton. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Made in France, d'un point de vue commercial, bah, ça fonctionne de mieux en mieux.
Il y a des indicateurs favorables. On voit les ventes de PME, de produits PME et TPE augmenter. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est une tendance, c'est réel. Il y a, on va dire, un rapprochement certainement un petit peu moins d'Asie, un petit peu plus proche en Europe ou proche de l'Europe pour éviter les coûts de transport. Et aujourd'hui, effectivement, c'est difficile. Même si vous rentrez dans les produits à marque de distributeurs, les produits Carrefour, Leclerc, Auchan, il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués par des PME françaises. On n'aura jamais 100% d'approvisionnement Made in France, tout simplement, parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas en France. Dans l'Hexagone, ça va être compliqué de trouver du café. Donc là, il y a tout simplement des problèmes de matières premières.
Alors la tendance visiblement est à la hausse, mais connaît-on la part du Made in France dans nos achats ?
Oui, et le chemin est encore long. 10% seulement de ce qu'on achète est fabriqué en France. Mais alors une bonne nouvelle quand même pour finir, hein. Écoutez bien, ça risque de vous surprendre.
La référence qui génère le plus de chiffre d'affaires en France, c'est un pastis. Et en volume, quel est le produit qui se vend le plus en grande distribution en France ? C'est une bouteille d'eau. Dans les deux cas, on est sur des marques françaises. On est sur Ricard pour le premier cas et on est sur Cristaline dans le deuxième cas. C'est tout confondu, c'est-à-dire c'est des panélistes, IRI ou Nielsen, qui étudient toutes les sorties caisses, des hyper, super, magasins de proximité, Art Discount et des drives. C'est un marché à peu près de 110 milliards d'euros. Donc sur ce marché de 110 milliards d'euros, la référence qui génère le plus de chiffre d'affaires, c'est un pastis Ricard. Et la référence qui sort le plus en volume, pas en chiffre d'affaires parce que c'est moins cher, c'est la cristalline.
Okay. Et on le répète, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, même si c'est pour acheter du Made in France.
Oui. Sous les radars, tous les soirs, dans On défait le monde, on va parler d'une info qui est passée inaperçue, Cyprien.
Et pourtant, celle-là, elle concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Les 2 milliards d'utilisateurs du site internet YouTube, Laurent.
Oui, vous savez, sous les vidéos, vous pouvez cliquer sur le bouton « pouce levé » pour dire « j'aime ce contenu » ou le bouton « pouce baissé »« je n'aime pas ». Voilà. Le nombre de clics apparaît alors de chaque côté, ce qui permet à tout le monde de voir si une publication est populaire ou non. Mais la règle va changer. YouTube a annoncé que le nombre de pouces baissés sous les vidéos va être masqué. En clair, en tant qu'utilisateur, vous pourrez toujours appuyer sur le bouton, mais vous ne verrez plus le décompte d'avis négatifs, un nombre qui sera seulement connu du créateur de la vidéo dans son espace privé.
Et alors, c'est quoi qui a incité YouTube à prendre une telle décision ?
Depuis plusieurs mois, les géants du web sont sous le feu des critiques pour leur manque d'engagement dans la lutte contre le harcèlement en ligne. Il fallait que YouTube réagisse. Depuis le mois de mai, les utilisateurs de Facebook et d'Instagram ont, eux, la possibilité de masquer le nombre de likes de leurs publications. Des associations estiment tout de même que ces plateformes n'en font pas assez. Après, cette décision pourra arranger YouTube. En 2018, une vidéo censée, vous savez, résumer les temps forts des 12 derniers mois sur la plateforme avait atteint la barre des 19 millions de je n'aime pas.
C'est un peu Squid Game à l'envers, votre truc, là.
Oui, voilà.
Allez, courte pause. Vous êtes bien sur RTL, bien sûr. On va continuer de défaire le monde dans RTL Soir avec, j'adore, la première info pour Brio Dîner. À tout de suite.
On défait le monde. Christophe Paco, Cyprien Signy.
L'info pour briller dans On défait le monde.
On continue, 18h48, toute l'équipe d'On refait le monde, bien sûr, avec cette info que j'adore. C'est la première info du soir pour Brio Dîner, Cyprien.
Elle est pour Laurent, qui en ce 11 novembre s'est intéressé à la Grande Guerre, évidemment, 14-18, Laurent.
Oui, parce qu'au début de la guerre, les soldats français portaient un pantalon rouge, garance couleur sang à une tenue mise en place en 1829. Et à cette époque, le rouge leur permettait de se reconnaître dans la fureur des combats et les nuages de fumée. Mais en 14-18, il n'est plus du tout adapté. La couleur était tellement visible sur les champs de bataille que l'ennemi ne pouvait pas rater à distance nos soldats. Les autres pays avaient en plus déjà adopté des tenues plus discrètes dès le début du XXe siècle. Et finalement, en France, l'ordre de confectionner des nouveaux uniformes est donné en juillet 1914. Le gris, puis ensuite le fameux bleu horizon arrive en décembre. Mais il est déjà trop tard. Un pantalon rouge qui provoque, en attendant, la mort de soldats français.
Laurent Tessier dans On défait le monde.
Christophe, c'est pris, à la fin de la soirée, il faudra choisir laquelle est la meilleure.
C'est bien.
Celle d'Anaïs et celle de Laurent.
Enfin, Anaïs,
je vous reviens.
Elle a pensé en fait.
49.
On défait le monde. Christophe Paco, Cyprien Signy.
Allez, l'heure du verdict en tout cas. Ce soir, c'est Anaïs Bouissou qui a la lourde tâche de désigner finalement le winner ou le loser. C'est le grand gagnant ou c'est le grand perdant du jour. Qui sait ?
Et on inaugure un concept ce soir. Il a cru être un winner, mais il risque bien de terminer en bon gros loser. C'est le frère d'Elon Musk, le dénommé Kimball Musk, Anaïs.
Oui, dans la famille Musk, c'est comme chez tout le monde. Il y a toujours un boulet, vous savez, le cousin lourd, le profiteur. Chez les Musk, c'est pareil. Vous avez d'un côté le milliardaire Elon, l'homme le plus riche du monde, le patron de SpaceX qui a volé dans l'espace, fondateur de Tesla. Et puis... Et vous avez le petit frère d'Elon Musk.
Kimball Musk.
Elon Musk's brother Kimball.
Kimball
Musk.
Kimball Musk.
Mais alors, attendez, qu'est-ce qu'il a fait, Kimball ?
Ça date de la semaine dernière, samedi 6 novembre précisément. Le grand Elon Musk fait un coup.
Elon Musk a demandé ce week-end à ceux qui le suivent de dire s'il voulait ou non qu'il vende 10% de ses actions Tesla.
Vendre 10% de son patrimoine, c'est toucher de l'argent et donc payer des impôts, comme tout le monde. Ça paraît dingue, mais jusqu'à présent, Elon se réglait en dividendes sans revenu salarié et donc il passait à côté du fisc. Donc Elon Musk propose de payer des impôts, il s'en fiche vu sa fortune. Évidemment, c'est populaire, les internautes disent oui. Et bon, le problème...
En vendant 10% de Tesla, Musk va déstabiliser le cours de bourse qui va chuter et pénaliser les autres actionnaires.
Le problème, c'était prévisible, c'est que la bourse tremble, Elon en rit, mais les investisseurs s'inquiètent et l'action dégringole pendant 2 jours. Bon, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que dans cette histoire, il y a le petit frère d'Elon qui intervient, vous savez, le boulet Kimball.
Alors là, je m'attends au pire.
Oui, la veille de l'annonce de son frère, qui a donc fait trembler l'action Tesla. Et là, comme par hasard, le petit Kimball, il a vendu avant tout le monde 88 500 actions au prix fort. Jackpot, il a récupéré 109 millions de dollars. En fait, dans la tête de Kimball, ça s'est un peu passé comme ça.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Voilà. Sauf que 109 millions, ça ne passe pas inaperçu.
Ah ouais, donc tout le monde l'a vu.
Vendre au plus haut. Vendre au plus haut, juste avant une annonce qui secoue la bourse, ça s'appelle Un délit d'initié. Ouais. Alors, une enquête est en cours, hein, mais c'est ce qu'on peut appeler une grosse boulette pour le frère loser.
Ouais, donc c'est vraiment un boulet, quoi.
Oui, en même temps.
On peut le dire.
Kimball.
C'est pas vraiment nouveau, hein. Kimball, il est un peu du genre léger, on va dire. Le frère d'Elon, c'est le gars qui raconte en public la chose à ne pas dire. Vous savez, les fusées SpaceX. Avant le vrai lancement, il y a eu 3 échecs de décollage de fusées. Eh bien, Kimball, ça l'amuse. Écoutez ce qu'il dit. Je crois que ces échecs, c'était en fait incroyablement excitant d'y participer. Voilà, avec le rire gênant. Bon, la légèreté, ça peut peser lourd. Si le délit d'initié se confirme, c'est plusieurs millions de dollars d'amende à la clé.
Vous restez avec nous, bien sûr. On défait le monde. On revient dans un instant avec une nouvelle info pour briller au dîner.
On défait le monde dans RTL Soir. L'info pour briller dans On défait le monde.
Et à 19h, c'est la deuxième info pour briller au dîner de ce soir, Cyprien.
Et elle est d'actualité en ce genre de commémoration, de souvenirs, puisqu'Anaïs, vous allez nous expliquer le concept de la fameuse minute de silence.
C'est incroyable, mais à l'origine, la minute de silence durait 10 minutes. Le premier exemple connu date de 1912 au Portugal pour rendre hommage à un ancien ministre. Du coup, en 1919, après l'armistice du 11 novembre, au lieu des traditionnelles trompettes, tambours et cloches qui sonnent, en Angleterre, les Britanniques ont aussi préféré faire sobre en restant silencieux. Alors, ils se sont dit que le silence, c'était bien, mais moins longtemps, c'était mieux. Ils ont d'abord pensé à 5 minutes de silence, et puis ça s'est fini en 2 minutes. Une minute pour les morts, une minute pour les vivants. La France a suivi en 1922, mais les 2 minutes se sont à leur tour transformées en une minute de silence, chaque 11 novembre et normalement à 11h précises.
Le 11 novembre, c'est vrai. Après, il y a la minute d'applaudissement également.
Ouais, ça, c'est se démocratiser dans les stades.
Ah, c'est fou. Ouais. Hein. Et vraiment bien votre histoire, Anaïs Buissot.
Encore une fois,
je suis fair play. Hein.
Non, mais je vais inviter Anaïs au dîner, comme ça, c'est plus simple pour briller.
Et vous faites gagner.
J'avais le choix entre Anaïs et Laurent Dessier.
Vous avez choisi Anaïs.
C'est pris ainsi. Pour dîner, bien sûr.
Encore une défaite pour Laurent.
Ah, décidément.
Marche ou rêve.
C'est quand on met, comme chaque fois, en valeur vos idées, vos initiatives.
Et ce soir, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes jeudi. Et le jeudi, dans Marche ou Rêve, c'est jeudi sport, on parle de vos projets ayant un rapport avec le sport. Et ce soir, un problème que ceux qui font de la course à pied, comme vous, hein, Christophe, connaissent bien. Que faire de vos baskets usagées, mais encore en bon état ?
Eh bien, leur donner une seconde vie, c'est l'initiative d'Africa Run. L'association organise une collecte de chaussures de running destinées aux populations d'Afrique. Bonsoir Jean-Philippe.
Bonsoir.
L'association a été créée en 2006, vous êtes le président fondateur. Quel a été le déclic pour vous lancer ?
Eh bien, le déclic, ça a été dans le cadre d'un voyage familial que j'avais organisé en Mauritanie. On a traversé le désert de Wadana Shingeti avec un guide. Et donc, ce guide a été très, très intéressé par mes chaussures de running qui était encore en bon état et que j'avais dans mon sac. Et puis en discutant avec lui, on s'est rendu compte que il y avait des gros besoins pour chausser les enfants, les adultes qui vont travailler au champ ou les enfants qui font du sport sur la place du village. Et donc je me suis dit, déjà je lui ai donné les chaussures que l'on avait et puis ensuite l'idée a germé et on a essayé d'organiser ça de manière un petit peu plus quantitative.
Parce qu'il faut expliquer qu'en fait quand on fait du running on change de chaussures régulièrement même si elles sont pas complètement défoncées ou complètement pourri, c'est ça ?
Exactement, c'est-à-dire que le principe des coureurs, c'est que on a besoin de chaussures qui ont un amorti tout à fait efficient. Et donc au bout de à peu près 1000 km, qui peut paraître beaucoup, mais pour un runner qui fait des marathons, c'est finalement assez rapide, c'est en gros à peu près 6 mois. Et donc quand il n'y a plus assez d'amorti, ben finalement on change de paire de chaussures. Par contre, la paire de chaussures, elle reste encore en très bon état. Comme on est un petit peu fétichiste, eh bien on les garde dans son placard, on stocke des paires de chaussures. Et donc l'idée de donner une deuxième vie à ces paires de chaussures qui sont encore en très bon état, et j'insiste bien sur le sujet, c'est sur le fait que ces chaussures doivent être encore en très bon état. Si elles n'ont pas assez d'amorti, c'est pas un problème pour les gens qui ont besoin d'être chaussés, qui sont d'habitude pieds nus.
Et alors, si on veut vous transmettre des chaussures de running, comment est-ce qu'on fait, premièrement ? Et deuxièmement, quelles sont les pointures dont vous avez le plus besoin ?
Aujourd'hui, on collecte principalement et quasi exclusivement sur des grands événements de running. En l'occurrence, on collecte dans le cadre des 20 km de Paris, on collecte au Marathon de Paris. Peu importe la pointure, effectivement, ce sont principalement des chaussures adultes qui nous sont données, mais par notre petite communication, on récupère aussi les chaussures enfants qui sont en très bon état. Là aussi, peu importe la taille, on va même jusqu'aux chaussures de bébé, puisque on sélectionne, on les trie à la source, et ensuite on les donne à des associations spécialisées, soit enfants, soit de jeunes, ou soit de sportifs.
Laurent le disait tout à l'heure, votre association a été créée en 2006. Vous savez à peu près combien de paires de chaussures vous avez pu récupérer, à qui vous avez donné une seconde vie ?
Dans les meilleures années, entre guillemets, c'est-à-dire les années où on était très très actifs, on pouvait aller jusqu'à 4000 paires par an. Et donc, sur une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans, je pense qu'on est, on est bien à 20 à 30 000 paires.
Eh bien, merci Jean-Philippe. Je vous invite à vous rendre sur le site africarun.org et sur la page Facebook de l'association. Bonne soirée.
Ouais, formidable, bravo.
Bonne soirée, merci Laurent.
J'adore, hein, marche ou rêve. Merci toute l'équipe. Dont défait le monde. Salut, yes. Cyprien, Laurent et Anaïs Bouissou pour vraiment ce moment d'importance, comme ce moment d'exception d'avoir Anaïs.
Ça vous a fait plaisir,
ah, oui, oui. Ah, bah, c'est bien. On vous retrouve lundi avec Céline Landreau également, yes, dans toute l'équipe dont défait le monde. Et puis demain, on parlera de nos régions. Hein. Demain, c'est au tour des régions d'aller faire un petit tour de curiosité tout près de chez vous. On refera nos régions demain soir, 18h40 jusqu'à 19h. La petite.